il y a plusieurs facteurs d'explication. La première est la transformation de ce référendum de la part du chef du gouvernement lui-même en un plébiscite pour ou contre sa personne. Et étant donné que différents facteurs se sont agrégés pour contester son action et sa personne à la tête de l'exécutif, eh bien, la participation s'est révélée effectivement extrêmement importante, plus de 70%, ce qui est vraiment considérable pour l'Italie. Mais c'était assez prévisible, surtout ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois. Donc ce n'est pas une véritable surprise.
Quelles sont ces personnes ou ces groupes qui ont voulu véritablement la tête de Matteo Renzi ?
Pour comprendre le phénomène, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre et se souvenir de quelle manière M. Renzi est arrivé à la tête du gouvernement et encore également un petit peu avant à la tête du parti. Donc il est arrivé il y a 3 ans à la tête du Parti démocrate sur base d'un slogan au relent tout de même assez démagogue et populiste qui était cette fameuse rotamazione que l'on peut traduire par envoyer à la casse la classe dirigeante. Donc les cadres du Parti démocrate évidemment ne l'ont pas oublié et il s'est donc à cette occasion créé pas mal d'inimitié. Ensuite, il est arrivé à la tête du gouvernement quelques mois plus tard, en février 2014, par une sorte de putsch interne, de manœuvre d'appareil, sans passer par les urnes. Donc c'est un Premier ministre qui n'a pas l'onction du suffrage universel et qui donc n'avait pas mandat pour réformer la Constitution à une telle ampleur. Donc il s'est mis à dos, si vous voulez, une partie importante non seulement de l'opposition, cela peut aller de soi, mais surtout de sa majorité et des cadres de son parti. Par ailleurs, il faut également signaler que M. Renzi est arrivé au pouvoir suscitant de nombreux espoirs. Et les espoirs ont au départ été rencontrés, puisqu'il y a eu quand même quelques réformes qui ont été faites, preuve en est qu'après ces réformes, il a gagné les européennes avec 40% des suffrages. Et à partir de ce moment-là, il a perdu pied, je pense, avec le mal-être qui a commencé à naître au sein de la population, dû au manque de résultats économiques essentiellement, et aussi à l'ouverture qu'il a faite aux anciens berlusconiens. Donc il a transformé cette volonté de plébiscite en une sorte d'onction électorale qu'il pensait recueillir et qui s'est retournée contre lui. Voilà, à mon sens, les explications, les facteurs explicatifs essentiels de cette déroute, puisque c'est tout de même une déroute.
Techniquement, oui. La majorité parlementaire existe toujours. Le gouvernement n'a pas été renversé par le Parlement. Qu'est-ce que Sergio Mattarella va faire, selon vous ?
Aller aux urnes aujourd'hui, avec un centre droit qui est complètement éclaté depuis le départ de Silvio Berlusconi, et sont orphelins d'un vrai leader. Donc la force majoritaire au sein de la droite, c'est la Ligue du Nord qui est anti-européenne. Vous avez l'autre bloc, qui est le bloc du mouvement 5 étoiles, qui est lui aussi fortement anti-européen, et vous avez une gauche complètement balkanisée. Donc aller au vote dans ces conditions-là, ce serait extrêmement dangereux pour la situation économique d'un pays qui conserve une dette publique extrêmement forte. Donc M. Mattarella va tout faire pour trouver une sorte de gouvernement, pas d'entente nationale, mais une opération un peu à la Mario Monti, quand M. Berlusconi s'est retiré. On parle de plus en plus de M. Padoan, qui est un monsieur qui est très rigoureux et qui est apprécié au sein des chancelleries occidentales et au sein des institutions européennes, et qui pourrait peut-être recueillir une majorité parlementaire pour conduire un gouvernement de transition, donc c'est-à-dire réformer la loi électorale et finaliser les derniers impératifs budgétaires et aller ensuite au vote en 2018 comme cela est prévu, soit un petit peu avant.
Mais est-ce qu'on peut envisager que les travaux du Parlement dans les prochains mois se focalisent une nouvelle fois sur cette loi électorale qui semble introuvable ?
C'est effectivement la tâche principale qui incombera au prochain chef du gouvernement si celui-ci est une figure de rassemblement, parce que la réforme électorale devra être l'œuvre d'une collaboration entre les différents partis pour qu'on puisse voter dans des conditions apaisées.
Alors, les vainqueurs du non sont assez hétéroclites, ils n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant, une fois qu'ils ont réussi à chasser Matteo Renzi ?
C'est une autre des difficultés essentielles, et je dirais que c'est la force de Matteo Renzi. Ça pourrait être une fausse défaite, ou une demi-défaite, puisque, au fond, vous avez donc 40% des électeurs qui l'ont suivi sur sa personne, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, et 60% qui l'ont rejeté. Mais les 60% qui l'ont rejeté, vous avez là-bas un assemblage de groupements et de mouvements et de personnes politiques qui n'ont rien en commun entre elles. Si elles devaient former un gouvernement, vous imaginez bien qu'entre la Ligue du Nord, la gauche de la gauche, le mouvement 5 étoiles et les centristes, c'est pratiquement impossible. Donc le seul, paradoxalement, qui dispose d'une assise électorale réelle autour de lui, c'est la théorie. Donc aujourd'hui, personne n'a intérêt à aller aux élections.